Nous sommes le vendredi 26 janvier. Voici l'édition de la mi-journée pour toute l'actu près de chez vous. Voici les titres de cette édition. La colère des agriculteurs était prévisible selon le député européen Benoît Biteau, lui-même agriculteur. Il dénonce les politiques publiques et défend les écologistes alliés des agriculteurs. L'activité en hausse du centre hospitalier Nord de Sèvres n'empêche pas le déficit. C'est ce que l'on retiendra de 2023. Les conditions d'hébergement à l'internat du lycée de Vinci à Bressuire sont plus que déplorable. Conséquence, il est fermé depuis mardi. Réaction dans ce journal du vice-président de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'éducation. Le département des Deux-Sèvres organise un tremplin musical dans le cadre du passage de la flamme olympique. Artistes et musiciens ont jusqu'au 26 février pour candidater. Et puis, dans l'actualité sportive, les Chamois affrontent Châteauroux ce soir en match en retard du championnat de national au stade René Gaillard. Quant à la météo, le ciel restera nuageux cette fin de semaine. Si la mobilisation des agriculteurs ne faiblit pas en France, elle a observé un mouvement de recul hier en Deux-Sèvres, ce qui ne veut pas dire que les agriculteurs ne soient pas déterminés. La rocade de Partenay a connu, par exemple, en fin de matinée hier, une opération escargot menée par une trentaine de tracteurs. Toujours est-il qu'en début d'après-midi, toujours hier, les barrages formés par la FNSEA et les JA autour de Niort étaient se lever petit à petit avant que la circulation ne revienne à une quasi-normalité. Au total, près de 200 tracteurs et 400 agriculteurs se sont relayés sur les différents barrages filtrants et plus de 15 000 tracts expliquant les revendications de la FNSEA et des JA ont été distribués. Un dernier convoi quittait le centre-ville à proximité du marché, c'était celui de la coordination rurale dont une délégation a été reçue en préfecture. Pour le député européen écologiste Benoît Biteau, ce mouvement parti de la base et qui échappe au syndicat était prévisible.
Ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on constate des politiques publiques qui sont particulièrement désastreuses pour le monde agricole. À un moment donné, à tirer un peu trop fort sur la ficelle, et ben, elle cède. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec les agriculteurs français. Ceux qui tiennent le stylo des politiques publiques déployées depuis une trentaine d'années maintenant, c'est les syndicats qui sont en co-gestion avec les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, et qui tiennent la plume des grandes politiques publiques déployées pour soutenir les agriculteurs, et au premier rang desquels, bien entendu, le syndicat majoritaire qui est la FNSEA, et qui, à l'échelon national et européen, impose sa vision du développement agricole basée sur des logiques extrêmement libérales et qui préfère l'économie de marché que la préservation des agriculteurs, des paysages, du climat, de la biodiversité, de la santé d'ailleurs, et qui sont des sujets qui reviennent en boomerang sur le monde agricole, parce que les premières victimes d'un dérèglement climatique, les premières victimes de l'effondrement de la biodiversité, des conséquences sur la santé de l'utilisation des pesticides, c'est les agriculteurs.
Alors que les agriculteurs multiplient les actions dans toute la France, se plaignant de crouler sous les normes et de ne pas gagner assez bien leur vie, les écologistes sont souvent perçus comme des ennemis. Ils sont au contraire des alliés, estime le député écologiste Benoît Biteau.
C'est d'ailleurs stupéfiant qu'on tente de vouloir faire porter le mal-être et le malaise des agriculteurs aux écologistes, alors que sur tous ces sujets-là, d'une PAC plus équitable, de dénonciation des accords de libre-échange, de politique plus respectueuse du climat, de la biodiversité, de la santé qui préserve avant tout les agriculteurs, c'est le logiciel des écologistes et c'est ce pourquoi on se bat depuis toujours. Si on avait mis en œuvre ce que nous demandons depuis des décennies, il est fort probable que l'agriculture ne serait pas dans la mauvaise ornière dans laquelle elle est enlisée aujourd'hui.
Le député européen écologiste Benoît Biteau, interrogé par Fabien Gazot, a noté que la Confédération paysanne des Deux-Sèvres se mobilise. Elle aussi veut faire entendre ses revendications qui ne vont pas dans le sens des deux syndicats à la base des actions de ce dernier jour partout en France. La conf est ce vendredi devant la population et les automobilistes, actuellement au marché de Mel jusqu'à midi et demi tout à l'heure et au rond-point de Fellabaisse actuellement jusqu'à 15h. La fermeture de l'A10 dans les deux sens de circulation entre Poitiers Nord dans la Vienne et Soudan dans les Deux-Sèvres et la fermeture de la RN10 entre Vivonne et Poitiers entraîne un report important du trafic routier principal sur le trafic routier secondaire de Sévry. Depuis hier, de fortes perturbations de la circulation sont constatées sur les itinéraires de déviation ciblés. Aussi, pour permettre la fluidification du trafic routier dans le département des Deux-Sèvres, la sortie de tous les véhicules routiers poids lourds et véhicules légers circulant dans le sens Bordeaux-Paris est obligatoire à l'échangeur de la RN10, les Maisons Blanches situées sur la commune de Limalonge. Une suspicion de prédation sur ovins par le loup dans notre département. Un éleveur ovin du sud-est des Deux-Sèvres a en effet alerté ces derniers jours la direction départementale des territoires et l'Office français de la biodiversité suite à la découverte de la dépouille d'un bélier mort. Des agents du service départemental de l'Office français de la biodiversité se sont immédiatement rendus sur place, sur la commune de Ché précisément, pour effectuer les premiers constats et recueillir les indices. Les éléments relevés sur le terrain permettent de conclure à une prédation par grand canidé pour laquelle la responsabilité du loup ne peut pas être écartée, même si certaines races de chiens peuvent parfois être à l'origine de dommages assez similaires, indique la préfecture des Deux-Sèvres. Jusqu'à présent, dans notre département, aucun indice de présence avérée du loup n'a été relevé, bien que dans la région Nouvelle-Aquitaine soit située sur le front de colonisation de l'espèce et que plusieurs départements voisins aient connu une présence occasionnelle du loup ces dernières années. On pense à la Charente-Maritime, la Charente, la Vienne ou encore la Haute-Vienne. Rappelons que le loup est une espèce strictement protégée en France et en Europe. Les derniers chiffres du chômage sont tombés à la mi-journée hier, au quatrième trimestre 2023, dans les Deux-Sèvres. Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit en moyenne à 11 010. Ce nombre augmente de 1% sur un trimestre, soit plus 70 personnes, et de 0,9% sur un an en Nouvelle-Aquitaine. Ce nombre est en hausse de 1,8% sur un trimestre, mais recule de 0,3% sur un an. Raisonnablement optimiste, ce sont les mots du directeur du centre hospitalier Nord de Sèvres lors des vœux de l'hôpital mercredi après-midi à Fellabès. Une activité en hausse avec plus de 11% du nombre de séjours par rapport à 2022, mais un déficit toujours là, expliquait le directeur général Bruno Fauconi au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Oui, c'est exactement cela. Ce qui veut dire que, contrairement aux autres hôpitaux, la situation ne va pas se dégrader, par contre, du fait de ce bon résultat d'activité, plus 11%, alors qu'en France, c'est plus 2, plus 3%. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose lors de l'année écoulée. Alors, il y a un déficit qui perdure, mais on est aidé par l'Agence régionale de santé et on espère bien que cette année 2024 va commencer de marquer de façon claire un déficit qui se réduit.
C'est ce que vous retenez principalement.
Oui, l'année 2023 est une bonne année au CHNDS, même si ce contexte d'inflation, de prix de l'énergie, a annulé nos efforts. Ailleurs, ça a détérioré les situations. Au CHNDS, on a fait un peu du surplace, on va dire.
Vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir?
Je suis raisonnablement optimiste parce qu'on sait bien qu'on réglera les problèmes en recrutant les médecins et les infirmiers dont nous avons besoin.
Si quelques recrutements ont été faits dans certaines disciplines, l'établissement est toujours confronté à un manque de personnel qui l'a conduit à fermer les lits temporairement, notamment en médecine, SSR et psychiatrie. Dans l'idéal, il faudrait recruter une trentaine de médecins et une centaine d'infirmiers, insistait Frédéric Pain, président de la CME et responsable des urgences, toujours au micro de Jacqueline Pinon.
Ça dépend où on met la barre. Si on considère l'ensemble du dispositif qu'il faut redéployer, je confirme. Si on veut redevenir à des normes normales où on puisse réouvrir les services, oui, c'est beaucoup moins. Mais il manque des soignants. Et moins il y a de soignants, plus les conditions sont difficiles. Moins on trouve des soignants.
Oui, on a compris que vous tendez vous vers un idéal. Et justement, le projet de santé, là, il doit y contribuer.
Il faut qu'on ait un accord entre les besoins de la population et l'offre qu'on donne. Et cette offre, elle doit être proposée à la fois par la médecine de ville et la médecine hospitalière. C'est pour ça que cette année, on va construire ensemble, usagers, médecine de ville, médecine hospitalière, un projet de santé du territoire.
En tout cas, dans l'attente des dernières notifications de recettes et hors aide de l'État, le déficit 2023 devrait être de l'ordre de 9 millions d'euros et le centre hospitalier Nord de Sèvres peut compter sur l'aide de l'ARS, l'Agence régionale de santé, aide de 4 200 000. À Bressuire, l'internat du lycée de Vinci est fermé depuis mardi dernier. En cause, les conditions dégradées dans lesquelles les élèves et les surveillants doivent passer leur nuit. Le problème, les problèmes s'accumulent. Avec un chauffage qui fait un bruit insupportable dans des chambres dont la température oscille entre 10 et 15 degrés seulement la semaine dernière. Il n'y a pas suffisamment d'eau chaude pour les 90 internes, sans parler de l'humidité, de la moisissure et autres mouches qui pullulent. Bref, les conditions sont indignes et les quatre surveillants ont dit stop avec l'appui des syndicats enseignants. Ils ont reçu hier le soutien des professeurs et des élèves qui livrent un témoignage édifiant à travers les paroles de Maïwen, Dharma, Julia, Dorian et Nathan.
On est avec des chauffages qui chauffent pas toujours. On a des fuites au niveau des lavabos, donc régulièrement le matin je me réveille, j'ai une flaque sous mon lavabo. On a du scotch pour combler les trous du carrelage. On a du scotch aussi sur la fenêtre parce que chez certaines filles il y a un trou dans la fenêtre, ça bouffe le trou. Et au niveau de la condensation aussi des fenêtres, c'est très mal isolé, on a beaucoup de condensation.
Le lundi matin on se retrouve avec quasiment une couette
mouillée,
trempée.
C'est pas des conditions en tout cas pour être hébergé.
Non, et puis on a l'eau froide des douches parce qu'on n'a pas assez d'eau chaude, donc voilà.
Et surveillante avec même avec le chauffage, c'est 10 degrés dans les chambres, c'est avec du bruit.
Tout le long de la nuit, on a des clics, 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 clics. C'est insupportable.
L'internat des garçons, les conditions sont pas bonnes non plus. Hein.
Oui, ben non, c'est sûr. Moi, par exemple, ma fenêtre, ça fait quelques semaines que mon volet ne ferme pas.
C'est des conditions qui sont pas forcément agréables parce que entre les chauffe-eau, la nuit qui sonne, qui se met en défaut à 22h et à 3h du matin au passage, les radiateurs qui font du bruit toute la nuit, on entend que ça claque, les tuyauteries, les éviers, les trous au sol qui sont réparés avec du scotch, donc c'est pas ouf.
Les élèves et les surveillants ont donc reçu hier le soutien des enseignants, enseignants mobilisés à 80%. Ce n'est pas la direction de l'établissement qui est visée par ce mouvement, mais bien la région qui a la responsabilité d'entretenir les lycées et donc de Vinci à Bressuire. Michael Michon est l'un des quatre surveillants. Il est également au micro colline de Fabien Gazot.
Nous, on a toujours envoyé des courriers qui ont été remontés à la direction. La direction a remonté les informations à la région et c'est la région vraiment qui pose problème. La direction nous a toujours soutenus et a toujours remonté ces problèmes-là sans forcément avoir de réponse ou de changement via la région. Quoi. Parce que les bâtiments appartiennent à la région et donc c'est eux qui doivent s'en occuper. Donc forcément, ce n'est pas des conditions pour accueillir vraiment et être bien, nous, pour notre travail aussi. Si on ne dort pas, le lendemain, on ne peut pas forcément assurer la sécurité et bien travailler au niveau des élèves. Ça nous impacte sur notre morale, sur notre santé.
La région Nouvelle-Aquitaine est donc appelée à réagir rapidement. Jean-Louis Nambrini est vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge justement de l'éducation.
Nous avons un prestataire qui est Engie, et qui est en charge du chauffage, etc., et du fonctionnement, et nous travaillons de manière très affirmée avec eux. Si je pouvais, avec ma boîte à outils, réparer, je me précipiterais à Bressuire, mais ce n'est pas du tout en fonction. Ce que je peux dire, c'est que la semaine prochaine, j'aurai un œil quotidien sur ce qui se fera, la société Engie doit trouver une solution aux problèmes immédiats qui se posent pour le confort des élèves. Le confort des élèves, c'est notre priorité. Leur sécurité et leur confort, confort d'études. Il y a un problème, il faut le résoudre. Donc, dès lundi, je réunis mes équipes et nous allons voir comment réagir dans l'immédiat et puis à plus long terme. Au-delà de la gestion quotidienne, il va falloir des interventions plus profondes et au plus long cours. Concernant cet internat, qui, si mes informations sont exactes, a doublé dans son accueil. Il y a deux fois plus d'internes qu'il y en avait précédemment.
Jean-Louis Nambrini, vice-président de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'éducation. La semaine prochaine donc, la situation de l'internat du lycée de Vinci à Bressuire sera étudiée de près pour que les 90 internes de l'établissement et les quatre surveillants soient hébergés dans des conditions dignes de ce nom. Le tremplin musical organisé dans le cadre du passage de la flamme olympique en Deux-Sèvres suscite déjà un vrai engouement auprès des musiciens. Les lauréats auront le privilège de jouer le 2 juin devant 10 000 personnes attendues au stade Espinassou à Niort, au soir d'une journée historique puisque la flamme naviguera sur tout le département ce dimanche-là. Mais avant cela, il faudra passer les présélections qui vont désigner 5 artistes au groupe dans chacune des catégories, moins de 25 ans, plus de 25 ans et musique électro. Les deux premières catégories se mesureront le 15 mars à la salle Émeraude à Bressuire. Ceux qui concourent pour la catégorie électro se retrouveront le 21 mars au manège du département à Niort. La musique participe donc à la fête des JO et cela a tout son sens, souligne Philippe Chauveau, conseiller départemental en charge de la culture.
Dans les Jeux de la Grèce antique, les champions étaient accompagnés par de la musique et lorsque Pierre de Coubertin a relancé les Jeux Olympiques modernes, il y avait des compétitions culturelles et artistiques et notamment des créations musicales. Et alors on est parti de ce petit clin d'œil en se disant mais en Deux-Sèvres, si on veut valoriser les Jeux Olympiques 2024, on peut peut-être aussi solliciter nos artistes locaux et de Sébriens. Dès qu'on a su que la flamme allait passer en Deux-Sèvres, ça a été une évidence qu'il fallait que la culture soit aussi partie prenante de l'opération et de l'ouvrir à toutes les créations artistiques et à toutes les générations. Alors concrètement, c'est très simple.
Le jury, là aussi, il y a la touche de Sébrienne. Et puis surtout, il y a cette touche très professionnelle.
On a voulu effectivement que le jury soit composé de professionnels. Alors la plupart d'entre eux sont originaires des Deux-Sèvres, mais travaillent avec des pointures. Il y a notamment le producteur d'Eddy de Préto qui nous accompagne. Il y a un musicien qui jouait avec les Rita Mitsouko. Ce sont des gens qui ont des liens avec les Deux-Sèvres et qui apporteront leurs compétences artistiques. Et puis il y aura aussi le vote du public lors de ces deux soirées du 15 et 21 mars, qui permet aussi aux Deux-Sèvriens d'être acteurs de ce tremplin musical.
Les artistes et musiciens ont donc jusqu'au 16 février pour déposer leur maquette auprès du département. Les meilleurs seront présélectionnés pour participer au tremplin. Le 15 mars, je vous rappelle, à la salle Émeraude de Bressuire. Le 21, au manège du département à Niort pour la musique électro. Les vainqueurs des tremplins se produiront sur la scène d'Espinassou à Niort au soir du 2 juin. Niort Jazz Festival a annoncé les premiers noms pour la programmation de sa 4e édition. Michel Jonas, Hugo Lippi et Sophie Alour seront là entre le 26 et le 28 juin. 13 concerts seront proposés sur deux scènes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le SAM Football organise une soirée de sensibilisation sur le harcèlement et les violences sexuelles ce vendredi à 19h à la salle Bel Air à Montcoutant-sur-Sèvre avec l'association Colosse au pied d'argile et son animateur Florian Marolo. La soirée est ouverte à tous et elle est gratuite. Dans l'actualité sportive, pour le compte du championnat de national, les Chamois qui ont perdu la seconde place au classement accueillent ce soir un mal classé, à savoir Châteauroux. La Berrichonne étant en effet à ce jour en position de relégable. Les Niortais retrouvent donc la compétition après deux rencontres amicales contre Angoulême. Il faut dire qu'entre la trêve et leur élimination de la Coupe de France, les Niortais n'ont eu qu'un seul match officiel en un peu plus d'un mois. C'était il y a une quinzaine de jours et cette victoire sur la pelouse du Mans. Philippe Insberger, le coach Niortais.
C'est chiant forcément, je veux dire, on a repris depuis un mois, on a fait un match de championnat. Bon, on avait aussi qu'à se qualifier en Coupe hein, pour jouer début janvier. Bon, c'était pas fait, on savait que ça allait être un petit peu long. Bon. On est content quand même de remettre le pied à l'étrier là sérieusement, puisque maintenant jusqu'au 17 mai on est parti pour jouer tous les week-ends. Bon, c'est quand même ce qu'on aime faire. Nous, ça fait un bout de temps qu'on est installé devant. On a perdu notre deuxième place là, eu égard à la victoire de Martigues de vendredi, mais nous on n'a pas joué. Donc on a aussi la possibilité de la récupérer et c'est notre objectif. Voilà. Mais ça c'est l'objectif final. Et pour avoir cet objectif, le réaliser, il faut mettre des choses dedans. Voilà. Et effectivement, cher, aujourd'hui, on va aussi, dans la deuxième partie de saison, on va aller au Red Star, on va aller à Sochaux, on va aller à Villefranche, on va aller à Rouen. Cher, ces matchs-là, c'est des concurrents directs aujourd'hui. Cher, c'est des points qui valent cher. Et peut-être qu'un point, ça vaut beaucoup.
Chamois à Châteauroux, c'est ce vendredi soir. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h30.